101.5 FM.
Nous sommes le lundi 28 décembre 2020, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et c'est l'heure de La Case de Seb. L'émission que vous allez entendre ce soir est celle qui aurait dû être diffusée le 14 décembre dernier, mais qui, à cause d'un petit incident technique, n'a malheureusement pas été diffusée. Certaines informations qui vous seront proposées dans cette émission ne sont donc malheureusement plus à jour. Merci d'en tenir compte pendant votre écoute. Au menu de ce soir, écologie, manque de bol, Angleterre victorienne, agents secrets, dents longues et guerre des gangs. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour la dernière émission avant Noël. Celle-ci intervient probablement trop tard pour vous donner des idées à demander au fameux barbu, mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter le coup. L'émission de ce soir ne sera donc pas une liste de suggestions à glisser sous le sapin, mais il y aura à n'en pas douter de très bonnes idées. On commence avec la sélection pour les enfants.
Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des enfants.
La première chronique sera sans doute un peu courte à l'aune de la vitesse à laquelle l'album qui vient se lit. Et attention, hein, c'est pas forcément un défaut. Il s'agit de L'homme qui courait après sa chance, de Posla, je prononce sans doute très mal, je prononce peut-être Posla, je ne sais pas, mais comme tous les noms à consonance étrangère, j'ai toujours tendance à mal les prononcer, malgré les efforts que je veux faire. Bref, L'homme qui courait après sa chance, de Posla, publié dans la collection Les Enfants Gâtés de chez Delcourt. On y découvre l'histoire contée par un escargot d'un jeune homme plutôt poissard. En effet, en seulement quelques pages, il verra son potager dévasté, sa nourriture toute cramée, son crâne abîmé, ses poules boulottées et son costume ruiné. Pas trop bête, le jeune homme se demande alors où est passée sa chance. Sur les conseils du narrateur, un escargot qui parle, hein, je tiens à vous le souligner, notre bon ami va donc se mettre en quête d'un ermite vivant sur la montagne, capable de lui dire comment retrouver sa chance. Alors si son chemin ne sera pas pavé de briques jaunes, il rencontrera tout de même, à l'instar d'une jeune fille du Kansas, des compagnons d'infortune, aussi à la recherche d'une solution à leurs problèmes. Solution que l'ermite devrait forcément avoir. Je m'arrête ici pour l'histoire afin de ne pas divulgâcher les différents rebondissements ou encore un dénouement plutôt inattendu. Sans cases, mais avec des vignettes vraiment bien réparties, l'ouvrage est très aéré et se lit hélas trop rapidement. Mais comme je le dis souvent, c'est loin d'être un défaut, mais surtout le signe d'une maîtrise de la narration vraiment efficace. Ici, certaines vignettes muettes sont souvent suffisantes pour faire avancer l'histoire sans s'appesantir sur des explications superflues. Au niveau graphique, tout est très agréable et doux, et cette sensation est renforcée par l'absence de cadre autour des vignettes. Les personnages sont ronds et leur design représente bien leur personnalité, avec un soupçon de cartoonesque très fun. Le héros, par exemple, est doté de longs bras maigres, de grands pieds et d'un visage rond, où s'agitent des yeux et une bouche hyper expressive. Une bonne surprise que cette fable à lire le soir avant le coucher des enfants, et soyez sûr qu'ils vous redemanderont cette lecture de nombreuses fois. Je redonne les références, il s'agit de L'homme qui courait après sa chance, de Posla, publié dans la collection Les Enfants Gâtés de chez Delcourt. Allez, continuons cette sélection avec deux albums bien différents et pourtant sur le même thème, l'écologie. Le premier album se nomme Hashtag Les Belles Vertes de Nikolov, Losti et Zanon. L'histoire, c'est celle de trois jeunes filles plutôt concernées par le sort de notre planète. Très motivée par un discours de Greta Thunberg, la jeune Emma décide de s'investir dans la lutte pour le climat.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular.
Alors oui, hein, c'est en anglais l'extrait que vous venez d'écouter, mais c'est l'occasion d'aller chercher les sous-titres par vous-même, ok? Emma propose alors à son école de réaliser un potager bio collaboratif. Mais c'est un échec cuisant. Et elle devra essuyer les sarcasmes de ses camarades habitués à trouver des légumes peu importe la saison dans un supermarché. Loin de se décourager, la jeune fille propose alors à deux de ses camarades de traverser la France pour aller manifester à l'inauguration d'un super porte-conteneur devant être inauguré quelques jours plus tard dans le port de Saint-Nazaire. Accompagnés par un garçon de leur école, c'est un périple plein de rebondissements qui attend nos quatre écolos en herbe jusqu'à une conclusion plutôt inattendue. Graphiquement, le trait est plutôt moderne et jeune, et si le design des personnages est un peu archétypal, il permet un peu plus d'empathie pour ces idéalistes, que l'on soit d'accord avec eux ou pas. Avec des couleurs chaudes, texturées, le dessin est sans ancrage et ça donne une sensation de douceur à l'ensemble, ce qui est vraiment, vraiment agréable. Et parler d'écologie aux enfants ne semble pas forcément un pari gagné d'avance, mais avec quelques astuces, les auteurs s'en sortent malgré tout plutôt bien. En effet, la jeune Emma est, comme beaucoup d'enfants des jeunes générations, hyper connectée. Et elle n'hésite pas à utiliser son téléphone pour aller chercher sur Internet des exemples de ce qu'elle raconte ou défend. Et ces pages d'exemples coupent un peu le rythme de la lecture, mais ce sont également des invitations pour le lecteur lui-même à faire ses propres recherches, à interrompre sa lecture pour pouvoir aller rechercher des informations complémentaires. Poser un instant son album pour chercher un complément d'information, ça permet d'approfondir sa lecture, ses connaissances et de se faire un avis qui sera beaucoup plus éclairé sur le sujet. D'ailleurs, les adultes feraient bien d'en faire autant. Bref, un joli album dynamique et pas moralisateur sur un sujet qui pourtant devrait être abordé plus souvent avec notre chère tête blonde ou brune ou rousse, hein, vous faites avec ce que vous avez. Allez, je redonne les références, il s'agit de Hashtag Les Belles Vertes de Nikolov, Losti et Zanon, et c'est publié aux éditions Jungle. Le second ouvrage, c'est La Baie de Lucky Corn de Cathy O'Neill, publié chez Bliss Éditions. L'histoire est celle de Lana, une jeune citadine venue avec son père aider sa tante dans son village natal. Et la tante a bien besoin, hein, puisque le charmant village de pêcheurs a subi les assauts d'une vilaine tempête, causant de nombreux dégâts et laissant sur les plages de nombreux déchets. Tout remettre en ordre demande du temps et de l'énergie, et le moindre coup de main est fortement apprécié. Un jour qu'elle se promène sur la plage, la jeune Lana découvre dans un point d'eau une petite créature. Pas vraiment hippocampe, pas tout à fait licorne, une acicorne. Avec l'aide de sa tante, Lana va s'occuper de la petite créature malade et découvrir tout un monde sous-marin bien mystérieux, mais tout aussi en danger que le village. Avec ce récit, Cathy O'Neill nous fait découvrir que la cohabitation de deux environnements tient parfois du numéro d'équilibriste, que ce soit simplement au niveau des villages, mais également au niveau social. Comme avec cette relation amoureuse se tissant entre deux personnages, encore une fois tout en nuances, douceur et émotion, et ce sont deux personnages qui sont très éloignés l'un de l'autre et des relations amoureuses qu'on peut avoir l'habitude de voir. Avec son trait clair et expressif, l'histoire se déroule avec une sensation de douceur, de calme étrange, même dans des moments d'action intense. Ce récit fantastique est en fait une fable écologique, nous montrant la fragilité des ressources que l'on considère comme inépuisables. Et que même à l'aune d'un petit village de pêcheurs, les dégâts causés à l'océan peuvent prendre des proportions parfois dramatiques. L'harmonie et la symbiose pouvant facilement exister, à la condition de savoir rester raisonnable. En mêlant les genres et en transmettant ce message écologique fort, Cathy O'Neill prouve encore une fois que son talent de conteuse, déjà récompensé par un Eisner Award en 2018 pour Le Cercle du Dragonté, est amplement justifié. Je redonne les références, c'est La Baie de la Kikorne de Cathy O'Neill et c'est publié chez Bliss Éditions. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Protect the Land, The System of a Down. C'est une chanson qui vise à sensibiliser et soutenir l'Artsakh, je ne suis pas sûr du nom encore, et l'Arménie en protégeant leurs cultures qui sont actuellement en danger.
Tells you what your life is worth.
On se retrouve après Protect the Land de System of a Down sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de la case de Seb. Orientons-nous maintenant du côté du pays de l'oncle Sam avec quelques comics. On va commencer avec une petite devinette. Si je vous parle d'un personnage de roman que l'auteur aurait inventé dans sa résidence de Jamaïque afin de déconduire sa compagne de l'époque. Ouais, je vous vois froncer les sourcils, c'est pas assez précis. Un indice, bon, la résidence en question se nomme GoldenEye et l'auteur Ian Fleming. Oui, bon, maintenant c'est évident pour tout le monde, il s'agit de 007, plutôt connu sous le nom de...
My name is Bond.
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 James Bond.
L'ouvrage dont je vais vous parler n'est ni plus ni moins que l'adaptation du premier roman de Fleming, Casino Royale, sous la plume de Van Jensen et les crayons de Denis Calero, publié aux éditions Delcourt. L'histoire que vous avez sans doute découverte dans le film avec Daniel Craig est très simple. Bond, un agent secret du MI6, se voit chargé de ruiner au baccarat, le chiffre, une sorte de banquier capable de financer une branche secrète d'un syndicat communiste s'il arrive à gagner de lucratifs parties. Le cadre de ce duel, le casino français de Royal-les-Eaux. Et tout ne va pas se passer comme prévu, puisque sur place seront aussi présents les membres du SMERSH, le service du contre-espionnage russe. Il est possible que l'ouvrage paraisse un peu convenu aux habitués de la franchise, puisqu'on y retrouvera tous les éléments ayant fait la gloire de l'agent 00. Femmes, belles voitures, alcool et décors luxueux, mais dans des versions délicieusement rétro, ou plutôt devrais-je dire vintage, voire quasiment collector. Ces éléments sont présents, certes, mais pas encore au point d'être devenus des gimmicks obligatoires et ostentatoires que l'on retrouvera dans toute la filmographie. Un mythe encore en cours de fabrication, donc, qui nécessitera bien des affinages pour devenir le monument que l'on connaît actuellement. Graphiquement, autant dire que c'est somptueux. Denis Calero sait utiliser les ombrages et les cadrages pour distiller une tension quasi palpable à ce qui pourrait pourtant ressembler à une simple partie de cartes, malgré des enjeux colossaux. Les deux auteurs ont réussi à rendre vivant et dynamique l'esprit d'analyse de Bond grâce à l'intégration de textes directement dans les cases, à proximité de l'élément qui retient l'attention de Bond. L'effet est immédiat et renforce le côté paranoïaque que nous transmet le héros, et le danger finit par se cacher partout, dans chaque recoin. Alors que le dernier film de la franchise, avec Daniel Craig dans le rôle titre, Mourir peut attendre, mais qui porte décidément bien son nom, se fait toujours attendre, eh bien Casino Royale, c'est l'ouvrage idéal pour découvrir l'espion favori de Sa Majesté dans son contexte d'origine. Légèrement désuet et très politiquement marqué, mais aussi simplement pour découvrir une œuvre riche et les éléments ayant pu faire sa légende. L'occasion aussi, pourquoi pas, de faire un comparatif en cherchant les différences entre le roman, les films et le comics. Il est à coup sûr possible que vous pouviez y trouver un point d'accroche. Je redonne les références. Casino Royale de Van Jensen et Denis Calero s'est publié aux éditions Delcourt. On continue dans les comics, mais avec d'autres mœurs et une autre époque. Bienvenue dans l'Angleterre victorienne avec Incest de Marguerite Bennett et Ariella Christie. Tantina, publié aux éditions Snangle. Excusez-moi, j'ai écorché son nom, hein, mais je vais arrêter de m'excuser à chaque fois que je fais une erreur. L'histoire, c'est celle d'une femme de classe plutôt aisée et de sa femme de chambre qui, pour assouvir un amour défendu et tabou, vont établir un plan afin de se débarrasser de l'époux gênant. Ce faisant, elles vont commencer à subir bien malgré elles les transformations physiques insectoïdes à la fois magnifiques et monstrueuses. Et c'est là toute la virtuosité de cet album, que de proposer un univers riche et voluptueux, à la fois excitant et repoussant, à l'instar de ces femmes si séduisantes, mais dont les instincts finiront par vous faire froid dans le dos. L'album a été publié en 2018 chez Snorgle. Vous allez me dire, mais du coup Seb, pourquoi tu nous parles d'un album aussi vieux ? Eh bien tout d'abord parce qu'il est vraiment sympa, et que les auteurs jouent sans cesse avec les opposés. D'abord avec ce mélange d'érotisme et de gore qui fonctionne parfaitement, mais également avec les milieux sociaux. Des maisons aux salons feutrés, on passe d'un coup au quartier malfamé, froid et puant. Chaque transition souligne encore plus les écarts existants entre les différentes classes sociales de l'époque, toujours présentes à nos jours, mais en appuyant d'autant plus sur ces extrêmes qu'ils en deviennent absurdes. Ce qui fonctionne le mieux, c'est tout de même cette métaphore de l'amour interdit, qui transforme ces femmes en monstres pour les auteurs, mais également au regard de leur propre perception de ce comportement par rapport aux mœurs et bienséances inculquées. Elles sont à la fois monstrueuses pour les autres, mais à leurs propres yeux, vis-à-vis de leur comportement. Mais si je vous en parle maintenant, c'est aussi et surtout parce que l'éditeur vient de lancer un financement participatif pour publier le tome 2. Lorsque vous entendrez cette chronique, il vous restera moins d'une semaine pour participer sur la plateforme À la Chouette et pouvoir choisir entre la couverture en édition limitée ou l'édition standard du tome 2. Rassurez-vous, si vous n'avez pas le premier volume, un pack est disponible incluant les deux tomes. Et faites-moi confiance, la série vaut largement le détour. Je vous redonne les références. Insect, c'est de Marguerite Bennett et Ariella Cristantina. C'est publié aux éditions. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec une chanson d'actualité, pas essentielle, de Grand Corps Malade.
Je vais sortir de chez moi et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus, si pour faire la fête sans un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons superfous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclue, n'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
C'était Grand Corps Malade avec une chanson plus essentielle qu'il n'y paraît. Vous êtes toujours à l'écoute du 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb et nous continuons notre émission avec quelques albums issus de la production franco-belge. On reste à la même époque, puisque l'album dont je vais vous parler maintenant se déroule peu ou prou à la même date et le même lieu que Insect, le Londres de l'Angleterre victorienne. Il s'agit de Lady Whitechapel de Julien Motler et Nicolas Antonin aux éditions Clair de Lune. Au cœur de Londres, un meurtrier sanguinaire trouble l'ordre public avec des crimes dont l'atrocité n'a d'égal que l'imagination. Dans sa délicate enquête, le détective Aberdeen sera épaulé par une recrue tout droit venue de Scotland Yard, le jeune Thomas Pound. Le flegme et le professionnalisme du jeune homme seront mis à rude épreuve puisque leurs investigations les conduiront dans le très privé club Seven Evans. Pourquoi celui que l'on ne tardera pas à nommer l'éventreur s'en prend-il aux femmes de ce club très sélect, couru par toute la haute société londonienne ? Quel secret cache le masque de celle que l'on nomme Lady Whitechapel ? Cette femme dont l'autorité au sein de Seven Evans ne semble jamais défiée, et pourtant n'est accessible que selon un rituel capable de mettre à genoux le plus endurant des hommes. Et de quel mal semble souffrir Madame Aberdeen pour mettre son mari dans un tel état de fatigue et de tourment ? Les réponses se trouveront dans le deuxième tome du diptyque. Alors si l'histoire de Jack l'Éventreur a déjà été de nombreuses fois adaptée et réécrite, hein, il fallait un nouvel angle pour intéresser le lecteur. Alors en choisissant de situer l'intrigue autour d'une maison close très sélecte, le pari est plutôt réussi. Loin de verser dans le gore comme Insect, on garde quand même cet équilibre fragile entre sensualité et horreur. Contrairement à leurs collègues des rues, les filles du Seven Evans sont plutôt heureuses et choyées. Mais en creusant un peu, on découvre que les apparences sont souvent trompeuses. Alors imaginez une enquête de Scotland Yard juste à cet endroit. Au niveau dessin, Julien Motlin arrive à retranscrire l'atmosphère chaude et voluptueuse de la maison close et la sensualité à fleur de peau de ses occupantes. Quand il ne s'agit tout simplement pas de la peau des occupantes elles-mêmes. On retrouve également les ambiances froides et humides des rues londoniennes, sans pour autant tomber dans le lugubre. Les auteurs ont préféré jouer sur les ambiances plutôt que sur les sensations frontales du gore, et c'est une nouvelle fois plutôt réussi. D'ailleurs, attendons-nous un peu sur la couverture en elle-même, à la fois attirante et intrigante. Le corps de cette femme en bustier, dont on ne distingue pas le visage, avec un air et une posture majestueuse qui semblent se mouvoir dans des flammèches volantes. Un résumé du livre à lui tout seul, volupté et intrigue seront forcément au rendez-vous. Il s'agit de Lady Whitechapel, de Julien Motler et Nicolas Antonin, aux éditions Clair de Lune. Revenons plus proche de nous à présent avec Que de la gueule, de Zibor et Akesel, aux éditions Sarbacane. Berlin, 2020. Quand il ne traîne pas avec ses potes, le jeune Raïm sert de garçon de course pour un influent trafiquant berlinois. À ses côtés, il rêve de devenir un caïd. D'abord un grand, un homme important. Pour devenir un jour une légende, comme Al l'Immortel, dont tous racontent la fin. Bon, personne n'est jamais vraiment d'accord ni précis sur le déroulé exact, sauf que c'était forcément épique. Un peu comme un Tony Montana berlinois, je vous fais pas un dessin. Bref. Raïm, qui vit seul avec sa mère, n'est pas seul à vouloir gravir les échelons du crime. Dans le collimateur de Raïm, le jeune Hera, qui semble s'approcher de manière plus efficace du Big Boss pour gravir les échelons. Et ça, Raïm ne compte pas le laisser faire. Il planifie donc un grand coup capable de le mettre en lumière aux yeux de son chef. Mais tout cela ne risque pas de se dérouler comme prévu. Autant le dire tout de suite, j'ai été plutôt surpris en lisant cet album. Habituellement, je ne suis pas vraiment fan des histoires réalistes et, autant l'avouer, franchement, le dessin ne m'attirait pas vraiment. Et pourtant, j'ai adoré suivre l'histoire de ce jeune garçon de famille plutôt modeste progresser dans son quartier en quête d'une gloire de grand banditisme. Une histoire où pourtant je ne pouvais m'identifier au personnage, puisque à nouveau Scarface et consorts ne sont pas ma tasse de thé. Et pourtant, je me suis laissé facilement entraîner par ce récit, rêvant malgré moi que Raïm réussisse ce gros coup et devienne un boss. Mais au-delà des ambitions de Raïm, c'est un quotidien crédible et presque anodin qui se déroule devant mes yeux. Des gens qui boivent un verre ensemble, des amis qui visent la lune en fumant des clopes qui font rire, une maman qui s'occupe comme elle peut d'un jeune un peu perdu tout en tentant de s'occuper d'elle-même un peu aussi. Au final, une vie plutôt banale. Et je me rends compte que j'ai pas encore parlé du dessin. C'est plutôt souple, les personnages ont des gueules, sans pourtant vouloir faire un jeu de mots avec le titre. Chaque personnage a une tronche. Sans aller dans la caricature, les fonctions sont pourtant claires pour le lecteur. Raïm est grand, malingre, avec une petite tête au bout d'un long cou. Son chef, lui, est une grande mule barbue, dont le cou disparaît au milieu des épaules. On a aussi un personnage, un policier, qu'on voit souvent, qui n'a rien à envier à notre bon vieil agent 212. Les couleurs en aplats sont efficaces et suffisamment variées pour donner de belles ambiances. Enfin bref, une sorte d'équilibre subtil et envoûtant qui vous happera jusqu'au dénouement. Je vous redonne les références. Que de la gueule, de Zibor et à que seul, aux éditions Sarbacane. On se fait une dernière pause musicale avec un groupe qui dépayse, Los Bichos, et le morceau « The Link is about to die ».
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur les ondes de la case de 7, toujours sur le 101.5 de Radio G. Et c'était Los Bichos et le morceau The Link is About to Die. On se dirige à présent vers le pays du soleil levant pour un peu de manga. Avec deux ouvrages bien différents. On commence avec Vlad Draculea de Akio Okubo aux éditions Soleil Manga. Voici donc l'histoire de...
Voici le récit de la révoltante et effroyable histoire de ce fou sanguinaire, le prince Dracula. Comment... Lentement, il empalait ses ennemis, les faisait rôtir, faisait bouillir leurs têtes dans un chaudron, les écorchait vifs, les découpait en morceaux et buvait leur sang. Dracul.
Oui, mais non. J'en veux déjà qui avait sorti les pieux, les gousses d'ail et les crucifixes en argent. Allez, vous me rangez tout ça, on va parler d'histoire. L'histoire de Vlad III, prince de Valachie, qui hérite d'un trône vide de sa substance. Un trône dirigé en secret par une noblesse riche et hostile, véritable pouvoir de cette petite principauté. Mais le jeune Vlad ne compte pas se laisser faire et va tout tenter pour redorer le blason dont il est l'héritier. Et ne nous le cachons pas, il est habile à manipuler les pions sur un échiquier politique, pourtant peu à son avantage. Dans l'ombre, il avance patiemment ses atouts et fragilise petit à petit l'adversité, pourtant tenue d'une main de fer par Alvé, un noble extrêmement influent et fin stratège également. Les deux hommes vont alors se livrer bataille par pions interposés. Pourtant, au loin, les armées ottomanes commencent à s'aligner et menacent le calme apparent de la région. Alors comme beaucoup sans doute, en débutant cette lecture, je m'attendais à un énième récit de vampirique misant probablement sur le gore. Et nous en sommes pourtant très loin avec ce récit historique replaçant le personnage à l'origine du mythe dans un contexte. Car oui, ici l'auteur s'attelle à subtilement introduire des éléments qui nourriront le mythe popularisé par Bram Stoker. Bon, de base, Vlad n'est pas un guéluron, un brun au regard noir. Sa présence magnétique, elle est renforcée par un look ténébreux, engoncé dans un grand manteau sombre à col de fourrure, sur une chemise à col ouvragé. Mais sans excès, sans caricature. Le auteur en profite souvent pour cadrer le visage soucieux du prince de près, lui donnant souvent un air de mélancolie désabusée alors qu'il pèse les nombreuses stratégies pour sortir de ce nid de vipère. Ce sera d'ailleurs le cas lorsque, très fatigué, ça lui rendra le visage hyper émacié, presque une caricature de vampire. Globalement, le manga est assez sombre, la faute sans doute à des cadrages bien chargés, un ancrage assez appuyé et un usage de trames très fréquent. Mais plutôt qu'un défaut, ça sert bien le contexte historico-politique où chaque case dissimule presque des murmures et bruits de couloirs et manigances. Si vous êtes fan de Game of Thrones, il est presque sûr que vous y trouverez de quoi vous satisfaire. Bon, dans le tome 1, c'est plutôt calme niveau cadavre et boucherie. Mais connaissant la réputation acquise par Vlad de nos jours, je suis prêt à parier sur un peu plus de décès dans les prochains tomes. Je redonne la référence, Vlad Draculea de Akio Okubo aux éditions Soleil Manga. Et pour finir, un peu de douceur avec Dahlia, artisane magicienne, scénarisée par Amagishi Isaya est dessiné par Sumikawa Megumi et publié aux éditions Komiku. L'histoire, c'est celle d'une jeune japonaise discrète et effacée qui se réincarne dans un monde de fantaisie. Ayant subi sa vie en tant que japonaise, elle décide de profiter au maximum de cette nouvelle vie qui s'offre à elle et de laisser libre cours à sa créativité en créant, ça fait une redite, des machines et objets inspirés de sa vie d'avant et capables de rendre bien des services dans ce monde féerique. Mais voilà, tout serait probablement déroulé sans accroc, sans l'arrivée de Tobias, le nouvel élève de son père. Alors commençons un peu cette critique avec un point faible. Moi je trouve un peu dommage que les inventions de la jeune femme soient principalement dues à ses souvenirs de notre monde. Cela aurait probablement fonctionné aussi bien et été tout aussi efficace que ses créations soient dues à sa seule intelligence et faculté d'observation. Mais on va considérer que c'est un chipotage de ma part, puisque ça marche quand même bien. Et c'est pas parce que les créations de Dahlia sont inspirées que l'effort de création nécessaire n'en est moins grand. En effet, on pourrait se dire que dans un monde où la magie existe, il suffirait de claquer des doigts pour se sécher les cheveux, ou à la rigueur agiter sa baguette magique comme dans Harry Potter. Mais non. Dans le monde d'Ordine, la magie obéit à des règles et la création d'objets magiques est plus technique qu'il n'y paraît. Sans une étude attentive, combiner une pierre de feu et une pierre de vent avec un tube, ça pourrait aussi bien donner un lance-flamme qu'un banal sèche-cheveux. Et Dahlia est du genre appliqué et méthodique. Le fait de connaître un objet de sa vie d'avant ne fait pas d'elle un ingénieur pour autant. Et c'est à tâtons et de façon empirique qu'elle va devoir tester et affiner ses projets, sous l'œil avisé et bienveillant et protecteur de son paternel. Au niveau graphique, Dahlia est plutôt lumineux, doux, dynamique. Le trait est fin, l'ancrage plutôt léger. Et les personnages sont facilement reconnaissables, globalement très expressifs. Les auteurs n'hésitent pas à donner de belles pages, résumant parfois en une seule image une émotion, un instant d'histoire ou le climax. et le tout rend la lecture hyper agréable et on passe un vraiment bon moment. Je redonne les références. Dahlia, artisane magicienne, scénarisée par Amagishi Izaya et dessinée par Sumikawa Megumi, et c'est publié aux éditions Komiku. Et puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vais vous parler un petit peu en freestyle de deux albums qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, que je n'avais pas forcément prévu d'inclure dans la chronique, et qui va vraiment, que je vais pouvoir vous présenter. Le premier s'appelle Hitler est mort, c'est le tome 1, Vigilant et impitoyable. C'est un scénario de Jean-Christophe Brizard et c'est un dessin et couleurs d'Alberto Pagliaro. L'histoire, c'est celle de l'armée rouge qui rentre dans Berlin le 2 mai 1945. Une armée dans laquelle des personnes ont été chargées par Staline de chercher des preuves de la mort d'Hitler, de son suicide, de ce que l'on annonce comme un suicide. Et là, la problématique, c'est que les gens ne sont pas forcément prêts à collaborer en fait pour pouvoir valider le suicide d'Hitler. D'un côté, nous avons le NKVD, l'ancêtre du KGB, et de l'autre, nous avons le SMERSH, dont on a parlé un petit peu dans la zone tout à l'heure, qui sont les services de contre-espionnage, et l'un contre l'autre, ils vont se lancer la course-poursuite d'indices, de personnes, de témoins capables de confirmer ou d'infirmer le décès de Feu le Führer. Et c'est vraiment passionnant de voir cette espèce d'imbroglio politique, des gens qui techniquement devraient travailler ensemble pour une meilleure efficacité, mais qui n'ont qu'une seule envie, en fait, bien se faire voir auprès de leur grand chef pour pouvoir continuer déjà à survivre, parce que c'est pas vraiment la joie. Et puis surtout, avoir une chance de promotion. Et du coup, on va se passer. On a un petit peu les experts Berlin, les experts secondaires mondiales. Je sais pas comment on pourrait le dire, puisque chaque indice va pouvoir être passé au peigne fin, que ce soit les radios dentaires, que ce soit une analyse médico-légale, ou alors tout simplement dans des interrogatoires de personnes ayant pu être proches d'Hitler. Et du coup, c'est vraiment intéressant. On se dit que c'est quelque chose qui potentiellement aurait pu exister. Alors je ne sais pas, c'est pas une, comme je vous disais déjà tout à l'heure, c'est pas moi la période historique, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais vraiment on se passionne, on va dire, pour ce récit et ces personnages qui sont loin d'être des enfants de cœur, qui sont loin d'être des héros, puisque ils sont quasiment tous pourris. À un moment ou à un autre, il y en aura forcément un qui fera une action qui va pas vous plaire, à moins que vous soyez un dangereux psychopathe ou quelqu'un qui aime faire du mal aux gens. Mais du coup, c'est hyper intéressant et c'est vraiment intéressant de voir cette quête de vérité dont on n'est toujours pas sûr, parce que je veux pas pencher dans la théorie du complot, mais il y a plein de gens qui disent qu'en fait Hitler il serait parti au Venezuela ou je sais plus comment s'appelle un pays d'Amérique centrale pour pouvoir se planquer pépouze jusqu'à son décès. Bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas du tout l'histoire du bouquin, mais vraiment un beau bouquin, une belle histoire qui se clôture. Je pense que ce sera clôturé en 3 tomes puisque c'est les 3 tomes qui sont annoncés. Au niveau dessin, on est sur un dessin qui est un peu bizarre, on a l'impression que tout est fait de plis. Les fringues ont beaucoup de plis, de souplesse et compagnie, mais on a l'impression que les visages ils sont soumis à cette même souplesse, à cette même je trouve pas mon mot en fait, et c'est vraiment agréable c'est très fluide, c'est très coulant, les personnages ils sont vraiment trop. J'ai pas l'impression d'avoir une espèce de pâte à modeler qui aurait été un peu trop lissée pour voir donner trop d'effets, et du coup ça marche bien en fait, c'est impressionnant, un petit peu comme dans Que de la gueule, les personnages ils ont des tronches qui sont facilement reconnaissables. Alors ils ont tous des tronches de bad guy, il y en a pas un qui a l'air sympathique avec qui on aimerait bien passer Noël, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment impressionnant. Au niveau couleur ça fonctionne bien aussi, on a beaucoup d'aplats avec pas mal d'ombrages quand même, mais des ombrages bien carrés et Encore une fois, ces tronches, c'est vraiment ça qui me parle le plus. On a cette sensation assez vivante. On plonge dans de l'espionnage et ça marche vraiment très très bien. Et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment sympa. Je vais redonner les références. Ça s'appelle Hitler est mort. C'est publié aux éditions Glénat. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est sur un scénario de Jean-Christophe Brizard et c'est dessiné et colorisé par Alberto Pagliaro. Et puis on va partir dans un tout autre univers avec Super Nintendo Bros de Pirates Sourcils et Nikon Eda aux éditions Jungle. Alors là, comment expliquer ça ? C'est passé à la moulinette tout l'univers Nintendo, mais pas que, et en faire un truc complètement barré, complètement... Ouais, je vais dire débile, mais dans le sens sympa du terme, puisque vraiment c'est de la poilade, c'est de la grosse déconnade, mais tout en ayant compris en fait tout en ayant l'essence de ce dont on se moque. Parce que se moquer d'un truc, c'est facile. Avoir joué à quelque chose, c'est encore mieux. Et c'est vraiment... là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de joué, il y a quelque chose de sympa. Et c'est des gens qui visiblement, en vannant... les jeux vidéo, mais ils les vannent parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les ont essayés. Alors on sait que Pirates Sourcils était plutôt incisif sur pas mal de ses BD, avec un humour qui parfois frôlait très très fort l'humour noir, enfin non, qui était même les deux pieds dedans. Et puis Nikon Eda qui arrive à faire un dessin qui est plutôt rond, rigolo à la base, mais qui vire très facilement dans le trash, c'est complètement bête. Donc ça marche très très bien. Donc on est sur de la déconnade très colorée bien référencée. On prend par exemple la passion de Mario pour les pièces, le fait que Sonic par exemple à un moment il est à fond sur les anneaux, ce qui en devient complètement maniaque en fait. Et du coup c'est hyper drôle de voir ce côté surexposé et surboosté d'un élément de jeu en fait, puisque techniquement Sonic, je pense que dans sa vie les anneaux ils s'en fichent un petit peu pas mal, mais dans le jeu c'est un petit peu vital, parce que si t'as plus d'anneaux t'es mort, hein, donc... Et ça donne des choses hyper rigolotes de faire Sonic un névrosé du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des gags basés sur Mario qui est un peu glandu et qui comprend pas en fait ce qu'on lui dit. Donc c'est à base de jeux de cartes. Je vais refaire le jeu de mots tant qu'à faire. On va se moquer également de Link et puis de sa candeur. Il y a des gags basés sur des trucs complètement scénarisés qui sont propres à la BD, notamment sur l'absence de son, et c'est vraiment vraiment sympa. Non, moi j'ai vraiment kiffé. C'est des blagues qui sont complètement nulles. On parlait de l'obsession pour de Sonic pour les anneaux. On a exactement la même obsession de Mario pour les princesses. Il y a des gags qui sont... Alors moi ce qui me gênerait un petit peu, c'est qu'il y a certains gags en fait qui sont un petit peu gore, et du coup là où de jeunes enfants vont peut-être vouloir lire certains trucs, puisque par exemple moi je prends ma fille, elle a 7 ans, elle lit elle connaît Mario, elle connaît Zelda, mais il y a quelques gags où j'aurais pas forcément envie qu'elle les lise pour l'instant. Alors peut-être que d'ici quelques années ça me passera, c'est peut-être juste moi qui suis un vieux papa râleur, mais du coup il y a quelques gags qui sont pas, qui selon moi ne sont pas tout public pour des raisons soit de gore, soit un petit peu trop en dessous de la ceinture. Mais on passe un bon moment. Il y a des gags. J'ai beaucoup aimé par exemple la série des gags où les sbires de Ganondorf viennent le voir en disant qu'ils ont trouvé Link, parce que Link correspond à une description, et en fait c'est pas du tout ça. C'est un comique de répétition qui fonctionne bien et qui est plutôt drôle. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment, vraiment cool. Je redonne les références, c'est Super Nintendo Bros de Pirates Sourcils et Nico Nedast d'audition Jungle. Et c'est vraiment cool. That's all, folks. Et oui, vous venez d'entendre Porky qui sonne la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous ai donné envie de découvrir les albums de ce soir. Passez de bonnes fêtes, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, bah je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir.
Radio G.